Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, au studio, nous sommes en compagnie de Perrine Millet. Bonjour.
Bonjour.
Et puis, tout d'abord, bonne année.
Bonne année à vous et bonne santé surtout.
J'espère. Et donc, vous êtes gynécologue obstétricienne et praticienne hospitalière. Donc, vous exercez toujours actuellement ?
Alors, je suis à la retraite depuis 2 ans et j'exerce en tant qu'universitaire puisque l'association dont je suis présidente, qui s'appelle Un maillon manquant, a comme objet officiel former les soignants face aux maltraitances faites aux femmes et aux enfants pour pouvoir y inclure les petits garçons. Et c'est un travail temps plein, puisque l'association a monté sur pied la première formation universitaire sur les violences.
Un maillon manquant, une association qui est comment actuellement ?
C'est une association d'Oise qui regroupe des adhérents non soignants, quelques soignants, qui a un comité de soutien assez large, qui comprend des professeurs agrégés des universités et le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege, gynécologue obstétricien lui-même. Nous avons donc monté depuis 2017 le premier diplôme interne universitaire sur les violences, puisque en formation initiale, il existe sur les violences, pour les soignants, les médecins, juste un item de 2 heures au concours national classant des internes de médecine générale et autres spécialités sur les violences depuis seulement 2016. La seule formation qui soit destinée vraiment aux soignants et qui traite des conséquences médicales des violences faites aux femmes et aux enfants existe depuis 2017-2018 sur la faculté de Paris-Descartes et la faculté de Grenoble-Alpes.
Un maillon manquant, donc, en charge et comme recours aussi pour une protection de personnes fragilisées.
Alors, l'objet de l'association, c'est pas d'être une association de recours, mais vraiment une association pour former les soignants, puisque comme je le disais, il n'y a aucune formation. Un maillon manquant, au-delà du diplôme universitaire qui a été monté, actuellement un projet qui est d'ailleurs subventionné, qui est un projet de montage d'un kit de sensibilisation aux besoins de formation pour les soignants. Un kit qui sera donc une compilation de documents écrits et d'une vidéo de 20 minutes qui va être montée par des professionnels de la vidéo, en particulier Pix & Grain, qui est une association locale de vidéastes et une pédagogue formatrice à la CCI de Lyon qui s'appelle Françoise Salomon, avec lequel Un maillon manquant va travailler pour imaginer quelque chose pour susciter le besoin de formation. En effet, à l'heure actuelle, les soignants ont du mal à aller se former puisque aborder la question des violences est par définition très difficile, très brassant émotionnellement. Les étudiants et les apprenantes disent bien qu'ils sont obligés de revisiter leur propre histoire, leur propre pratique. Et donc, l'idée est de susciter l'envie et le besoin de formation pour, dans un troisième temps, monter des formations courtes qui sont moins lourdes que le fait de passer un diplôme universitaire, avec des intervenants de renom, hein, des professeurs agrégés en pédopsychiatrie, en gynécologie obstétrique, en psychiatrie, en algologie, en neurologie et en gastro-entérologie, pour que les soignants du corps, entre guillemets, puissent vraiment prendre en charge de façon adéquate toutes ces violences qu'ont subies les enfants et les femmes d'une façon générale, puisqu'il y a une asymétrie femmes-hommes.
Un maillon manquant, c'est une structure originale encore en France ?
Il existe une autre association qui s'appelle Stop aux violences sexuelles, qui est une association qui a comme objet, pas la formation des soignants, mais le fait d'éradiquer les violences sexuelles. La particularité d'un maillon manquant, c'est de s'appuyer sur le milieu universitaire et d'intégrer les violences sexuelles dans les violences de tout genre, les violences psychologiques, les violences émotionnelles, les violences physiques. C'est un jeu de mots, les violences de tout genre, puisque en fait, c'est des violences du genre, entre autres, telles que définies par le préambule de la loi de la Convention d'Istanbul, qui dit que les violences faites aux femmes sont une manifestation des rapports historiquement inégaux entre les hommes et les femmes, entraînant la domination des unes par les autres et privant les femmes de leur pleine émancipation, fermez les guillemets. Et ce qui n'est pas forcément mis en avant par l'association Stop aux violences sexuelles, dont l'objet n'est pas théoriquement de former les soignants. Effectivement, il y a d'autres associations. Par exemple, il existe une association en particulier sur le net qui fait des formations magnifiques pour les médecins généralistes qui s'appelle Déclic Violence et qui décline toutes les tenants et les aboutissants de ce qu'il faut savoir en tant que médecin généraliste. Donc, il suffit de taper Déclic Violence. On trouve ça sur Internet très facilement. Et il est actuellement reconnu depuis 2013 par l'OMS que les violences faites aux femmes et aux enfants sont une pandémie mondiale avec un problème de santé publique mondial, puisque la première enquête qui a été faite par l'OMS en 2013 a montré qu'une femme sur trois dans le monde avait été victime de violences conjugales, physiques et ou sexuelles, le plus souvent par son partenaire. Et en France, l'OMS donnait comme chiffre en 2013 26,7% des femmes victimes de violences conjugales et ou sexuelles, le plus souvent par leur partenaire.
Et comment sont opérées cette captation de données ou de statistiques dont l'OMS porte la connaissance ?
Alors, l'enquête qui avait été faite en 2013 avait été faite par deux piliers, un département sud-africain de recherche et un département irlandais de recherche. En France, les chiffres sont croisés entre les statistiques du ministère de l'Intérieur, les statistiques de l'INSEE, les statistiques de l'enquête cadre de vie et de sécurité et les statistiques de l'enquête virage, violence et rapport de genre qui avait été fait par l'Institut national d'études démographiques en 2016 pour évaluer le ratio entre les violences sexuelles faites aux femmes et les violences sexuelles faites aux hommes. Il est vrai que ces chiffres sont souvent difficiles à mettre en évidence, mais le croisement a été fait par l'Observatoire national des délits et des répressions pénales, l'ONDRP, qui met à jour les chiffres chaque année. Et ils sont disponibles sur le site de la MIPROF, qui est une instance gouvernementale qui a été mise en place en 2013 par le président François Hollande. Cette instance gouvernementale qu'on trouve à stop-violence-femmes.gouv.fr regroupe tous les outils qui ont été mis en place pour la formation des professionnels juridiques, policiers, gendarmes, assistantes sociales, etc. Le problème est la formation des soignants. Beaucoup plus difficile puisque ça relève de deux autres ministères, le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère de la santé.
Une question me vient, comment ça se décline au niveau du ministère de l'enseignement supérieur ? C'est par rapport à cette formation donc ?
Alors, en fait, pour mettre en place un diplôme universitaire, il faut trouver des agrégés, c'est-à-dire des chefs de service. Et mon parcours personnel m'a permis d'être de formation parisienne, avec actuellement le professeur Yves Ville, qui est chef de service à Necker, qui m'a donné son soutien universitaire pour monter ce diplôme. Et la professeure Pascale Hoffmann, qui est chef de service à Grenoble, puisque j'ai été aussi attachée au CHU de Grenoble pendant une dizaine d'années, qui m'a donné son soutien universitaire et pédagogique pour monter ce diplôme. C'est toujours les facultés qui portent les diplômes universitaires. Même si moi-même, au départ, je ne suis pas universitaire, le fait d'avoir eu un parcours avec des actuels chefs de service en place m'a permis de pouvoir monter ce diplôme.
Vous parliez des enquêtes hein, tout à l'heure, opérées en France et qui sont mises à jour chaque année. Qu'est-ce qu'on peut y observer au niveau des statistiques ? Est-ce qu'il y a une croissance ou une régression des violences ?
Les chiffres sont relativement stables. Hein. Actuellement, on est à peu près entre 210 000 et 220 000 femmes victimes de violences conjugales par an en France et 94 000 viols ou tentatives de viol déclarées par les femmes par an en France. Et cette année, il y a eu 149 féminicides. Ces chiffres sont à peu près stables. Ce qui change un peu entre 2017 et 2018 et qui est... a été rendu public par l'ami prof, donc, c'est la déclaration. Il y a eu une augmentation de déclaration très nette, je crois, de presque 17% entre 2017 et 2018, liée manifestement au mouvement hashtag MeToo, où les femmes ont libéré de façon anonyme leur parole. Il faut savoir que la libération de la parole se fait facilement de façon anonyme sur les réseaux sociaux, mais que si on enquête auprès des femmes de façon systématique sur les violences subies, comme par exemple la docteure Maria Ferrari qui a fait un mémoire sur un questionnement systématique à l'hôpital d'Aulnay en 2018, 420 femmes interrogées systématiquement sur une semaine sur les violences subies actuelle ou pendant l'enfance, témoin ou victime, il n'y avait que 7% des femmes qui avaient déjà été interrogées par un soignant. C'est-à-dire que 93% des femmes dans ce mémoire n'avaient jamais été interrogées par un soignant auparavant.
On peut parler de, comme exemple de cette actualité où deux personnalités, une du cinéma et une de la littérature, ont décidé de porter plainte contre leur bourreau. Et cela presque de nombreuses années après coup. Et en même temps, on peut remarquer qu'elles sont arrivées à un certain paroxysme de leur carrière. Est-ce que c'est ça qui les conforte justement pour mettre à jour ces inégalités ou ces violences ? Est-ce que malgré tout, toutes les femmes n'ont pas cette chance ?
Clairement, ce qui se passe, en tout cas avec Adèle Haenel et j'ai oublié le nom de cette femme qui a publié son bouquin hier sur Gabrielle Masneff, ce sont des femmes qui ont sublimé, après un parcours quand même très difficile, et qui leur permettent, c'est bien ce que dit Adèle Haenel d'ailleurs, qui leur permettent de pouvoir dire des choses alors que la plupart des femmes ne peuvent pas dire les choses. Et ce pourquoi le diplôme a été créé, parce que ce qui se passe, c'est que les soignants ne posent pas la question parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Ils pressentent les choses, mais ils ne savent pas quoi en faire. Et ils savent que s'ils posent la question, ils vont ouvrir la boîte de Pandore et derrière, quelle solution pour la patiente. Par contre, dans cette enquête, dans ce mémoire dont je parlais tout à l'heure, non seulement il y avait 93% des femmes qui n'avaient jamais été interrogées auparavant par un soignant, mais si on interrogeait les femmes sur leur désir ou non d'être interrogées, 97% des femmes, victimes ou non victimes, plébiscitait le questionnement systématique. Ce qui se passe dans le colloque singulier entre la patiente ou le patient, puisqu'il y a aussi des hommes, et le soignant, le médecin, le secret médical qui a été soulevé lors du Grenelle comme étant questionnant sur la nécessité d'exister ou pas en cas de dangerosité, le secret médical permet aux patientes de pouvoir déposer facilement leur souffrance, parce que justement, la confiance est là dans le colloque singulier. Et c'est pour ça qu'il faut former les soignants, parce que quand on interroge de façon systématique, on retrouve ces chiffres systématiquement en consultation.
Une réflexion de ma part, est-ce qu'il aurait été aussi judicieux, par exemple, de créer carrément des postes voués uniquement à cette charge ?
Alors, actuellement, il a été décidé de monter une dizaine de centres psychotraumatiques en France par le gouvernement. Mais votre question est très pertinente, puisque les chiffres sont monstrueux, en fait. Et donc, il faudrait effectivement que tous les soignants puissent avoir accès à un référent. Ce que la mission interministérielle de prévention des violences faites aux femmes avait mis en place pour partie en formant la moitié des urgentistes de France sur l'accueil et le recueil possible des violences aux urgences. Mais il faut bien savoir que les conséquences médicales des violences faites aux femmes et aux enfants, puisque, par exemple, on sait que d'après l'enquête ANVEF qui était sortie en 2000, 80% des femmes victimes de violences conjugales ont d'abord, dans l'enfance, été victimes de violences sexuelles. Il faudrait donc, théoriquement, former tous les soignants pour qu'ils soient capables d'interroger et les enfants, et les jeunes filles, et les jeunes hommes sur les antécédents de violences sexuelles en particulier, dans lequel la société entière est dans un déni au sens psychologique du terme, c'est-à-dire se protéger d'une réalité qui est trop difficile et trop dure.
Et donc, la victime subit les violences sur le moment, mais elle garde aussi, j'ai entendu ce mot, une empreinte tout au long de sa vie, qui comme une sorte d'ornière.
Alors en fait, ça c'est ce que le psychotraumatisme avait été mis en évidence déjà depuis les années 90 chez les psychiatres qui s'occupaient des vétérans du Vietnam. Mais l'apport des neurosciences a montré un impact direct sur le lobe frontal et le lobe temporal avec des traces visibles à l'IRM qui font le lien entre ce qu'on savait des répercussions du stress post-traumatique lié aux agressions graves qui menacent de mort ou qui mettent en danger, comme les effractions liées aux violences sexuelles, qui font le lien, donc ces neurosciences, entre les impacts neurologiques visibles à l'IRM et les impacts sur la santé globale, et y compris sur la santé cardiovasculaire, immunologique, avec des maladies auto-immunes en sur-risque, des addictions, bien sûr, la santé mentale, bien sûr, les dépressions, bien sûr, mais aussi, par exemple, en santé gynécologique et obstétricale, des répercussions sur la grossesse, avec des retards de croissance in utero, des contractions prématurées, des béances cervicales, des accouchements prématurés, un sur-risque de césarienne majeur en cas d'antécédent, etc., etc. Toutes choses qui sont documentées maintenant par des études épidémiologiques sérieuses et que les neurosciences peuvent inscrire clairement dans une continuité entre le trauma psychique au départ et les répercussions sur la santé globale à l'arrivée, et y compris à long terme.
Je reviens sur le Grenelle, sur les violences. Pour vous, quels sont les bons résultats qui en a émané ?
La question de la formation des soignants est venue en premier. Et ça, c'est très important, même si actuellement, il n'y a pas grand-chose à part le diplôme monté par un maillon manquant. Puisque dans les chiffres qui sont communiqués par la MIPROF tous les ans, les patientes disent bien que le premier interlocuteur auquel elles aimeraient s'adresser, c'est leur médecin. Et donc le fait de pouvoir mettre une fois de plus en avant la nécessité de former les soignants et donc être conforme aussi à la loi, puisque la loi, le traité européen du Conseil de l'Europe qui s'appelle la Convention d'Istanbul, dite d'Istanbul, met en avant la formation des professionnels dans son article 15 comme une nécessité absolue. Donc le Grenelle a rappelé ça et les modalités pratiques sont à mettre en œuvre pour pouvoir les introduire en formation initiale et pas seulement en formation continue, puisque le diplôme est une formation continue pour des médecins, des sages-femmes, des kinésithérapeutes, des gynécologues déjà en exercice.
Ce cursus proposé est accessible dans quelle université actuellement ?
Donc les deux facultés qui portent le diplôme sont Paris Descartes et Grenoble-Alpes. Ça se déroule sur un an et il y a 5 jours de présence sur la première session à Paris, 5 jours de présence sur la deuxième session à Grenoble, et l'examen qui n'est pas un mémoire est un examen de récit de situation complexe authentique, c'est-à-dire que les soignants tirent de leur pratique une histoire clinique avec la mise en place d'un réseau et leur capacité à avoir résolu les problèmes pour les patientes dont ils ont tiré l'histoire clinique.
Et actuellement, cet enseignement est en option ?
Cet enseignement est une formation continue, c'est-à-dire c'est un diplôme que volontairement les soignants vont suivre, comme on peut suivre un enseignement complémentaire de pathologie cervico-vaginale et de colposcopie ou de chirurgie du sein pour les gynécologues ou de psychopérinatalité ou d'addiction et périnatalité, etc. etc. Donc c'est des diplômes complémentaires.
Vous-même, durant votre carrière de gynécologue obstétricienne, vous avez certainement vu les techniques de cette profession évoluer.
Ce qui a énormément changé dans nos pratiques est lié au fait que les patientes sont montées au créneau sur la façon dont les soins étaient dispensés en gynécologie obstétrique. Ce qui a énormément changé, c'est la demande de consentement aux soins, puisque c'est aussi pour ça que j'avais été poussée à monter ce diplôme, c'est que j'avais repéré sur les corps des patientes les séquelles des violences subies, puisque le corps féminin se ferme face à l'adversité et l'examen gynécologique est difficile et douloureux, clairement. Chez les femmes qui ont subi des violences, il y a une thèse qui est sortie en décembre 2019 à Grenoble et qui montre que le vécu du suivi gynécologique et obstétrical chez les femmes qui ont des antécédents de violences sexuelles est globalement très négatif et beaucoup plus douloureux que chez les patientes qui n'ont pas subi de violences. Chose que j'avais observée et mis en évidence, c'est comme ça que j'ai recueilli les premiers incestes et les premiers viols il y a déjà plus de 20 ans dans mon exercice professionnel. Ce qui change maintenant fondamentalement, c'est la demande de consentement, les explications. Et merci aux usagères d'être montés au créneau pour nous dire qu'il fallait changer nos pratiques.
Thank you. Il y a une évolution des mentalités également, puisque la femme a le droit et se prend le droit de s'exprimer sur sur ces violences. Est-ce que c'est un progrès pour vous ?
Ben, je dirais que c'est presque une révolution anthropologique, hein, entre l'accès à son corps que nous avons obtenu dès la fin des années 70, enfin dès la fin des années 60, début des années 70, avec la loi Neuwirth et la loi Veil, et actuellement avec le mouvement justement des femmes sur l'accès aux soins différemment, et c'est une véritable révolution anthropologique que de pouvoir libérer la parole. Mais là où il est très important, et j'insiste, la libération de la parole sur les réseaux sociaux, c'est très important. Le fait de pouvoir en parler à son médecin est une étape fondamentale. Tous les étudiants qui sont passés par le diplôme, puisqu'on en est à la deuxième promotion, et la première promotion avait fait retour de ça, dans leur pratique quotidienne, le fait de pouvoir interroger systématiquement les patientes ou les patients leur donne un retour absolument magnifique, puisque c'est souvent la première fois qu'on les croit et qu'on accepte ce qui est délivré, et on prend en charge comme on peut, avec un réseau, parce qu'on ne peut absolument pas rester tout seul avec ce genre de choses extrêmement violentes. Mais il est clair que la libération de la parole dans un cabinet médical ou chez un soignant est beaucoup plus importante pour le confort des patientes, puisqu'on sait bien qu'il n'y en a que 10% qui portent plainte, par exemple, et il n'y a que 1% qui ont un parcours judiciaire. Donc, ça veut dire que 99% des femmes n'ont pas de reconnaissance sociétale du fait d'avoir été victime. Le fait de pouvoir en parler déjà au niveau d'un soignant et d'être cru et d'être pris en compte et de pouvoir revisiter sa propre histoire, y compris son histoire clinique, avec les ennuis de santé qui sont liés au psychotraumatisme qui n'a pas été reconnu, est essentiel pour les femmes, bien sûr.
Et puis, en parlant de l'hôpital, actuellement, avec le ministère de la Santé qui baisse chaque année les budgets, est-ce que ça, c'est au détriment d'un personnel qui serait peut-être plus à l'écoute aussi ?
Alors, je pense que les soignants, à l'heure actuelle, sont de toute façon, quel que soit leur exercice, tous en souffrance. Pour moi, c'est vraiment un signe de quelque chose qui ne va pas bien dans une société où les soignants, quel que soit leur type d'exercice, hein, il y a deux jours, 1000 chefs de service de France ont démissionné de leur poste de chef de service et ne codent plus la tarification des actes dans leur service pour protester contre les restrictions budgétaires. Bien évidemment, ça n'aide pas à pouvoir mettre en place une médecine de qualité qui serait beaucoup plus à l'écoute et moins dans la technique, puisque le fait de simplement libérer la parole est une étape fondamentale de reconstruction pour les patientes et les patients.
Actuellement, avec les formations donc, que vous avez créées, il existe combien de personnes par session ?
Alors, c'est maximum théoriquement 45. Et en fait, la deuxième promotion cette année qui a vu se dérouler la première session à Paris début décembre 2019, comporte 50 apprenantes, dont deux hommes, un médecin échographiste congolais et un sage-femme.
Ce sont des professions autour de la gynécologie ou plutôt de la médecine générale qui sont formées ?
Alors cette année, on a la moitié sont des médecins et la moitié sont des sages-femmes. Le public ciblé sont tous les soignants du corps, puisqu'il existe déjà des diplômes universitaires en victimologie et en psychotraumatologie pour les psys, et que les soignants, entre guillemets, du corps, bien qu'il faille arrêter de faire cette scission entre le corps et l'esprit, puisque les neurosciences nous montrent bien qu'il s'agit plus de douleurs psychosomatiques, par exemple, en ce qui concerne les douleurs gynécologiques et obstétricales, à sur-risque chez les patientes victimes, mais les algologues appellent ça des douleurs nociplastiques pour bien inscrire la chose dans les neurosciences. Le problème soit reconnu, comme l'OMS le dit, comme un problème de santé médicale, au-delà de la santé psychique, mais comme un problème de santé globale, et que nous sommes vraiment les premiers à qui les patientes et les patients peuvent se confier facilement, si on est capable de leur poser la question.
Je ne sais pas si vous vous tenez au fait de ce qui se dit, de ce qui s'échange au niveau des milieux féministes et aussi à savoir quels sont les prochains objectifs à venir.
Les objectifs sont difficiles à définir puisque en tout état de cause, actuellement dans la loi, en particulier en France. L'égalité homme-femme est quasiment acquise. Ce que les milieux féministes et ma collègue, la docteure Muriel Salmona, met en avant par rapport aux violences sexuelles, c'est l'âge du consentement qui n'a pas été tranché lors de la loi de Marlène Schiappa en août 2018 et qui n'impose pas le fait de dire qu'un rapport sexuel d'un adulte avec un mineur de moins de 15 ans ne peut être considéré que comme un viol ou une tentative de viol. Et je pense que les féministes, elles, montent au créneau pour pouvoir imposer cet âge minimum de consentement. D'ailleurs, à propos de consentement, j'aurais tendance à dire qu'il faut revoir la sémantique du mot consentement et que, comme le dit Marilyn Baldet, qui est présidente de l'association des violences faites aux femmes au travail, qui est une vieille association européenne, plutôt que de parler de consentement, on devrait parler d'accord de volonté.
Ce qui est mis à défaut aussi, c'est au niveau des médias. Lorsque cette affaire de Maznev, qui était très médiatisée dans les années 80, a pu justement s'exprimer sur ce sujet, et avec l'accord de l'assistance, plus ou moins, par Madame Bombardier, je crois. Et donc, c'est aussi, comment dire, une sorte de consentement qui est en train de changer actuellement.
Oui, alors le livre qui est sorti hier, qui s'appelle Le Consentement, hein, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est vrai qu'à l'époque, un grand nombre d'intellectuels avaient signé la pétition pour soutenir Gabriel Maznev, alors que tout le monde savait pertinemment qu'il s'agissait de pédocriminalité. D'ailleurs, la sémantique là aussi est intéressante. Annie Leclerc, philosophe décédée en 2006, avait écrit un petit livre qui est paru de façon posthume, qui avait été publié par Nancy Houston, son amie, qui s'appelle Pédophilia. Il ne s'agit pas d'amour des enfants, mais il s'agit de criminalité. C'est vraiment l'intrusion, l'effraction d'une sexualité adulte dans la sexualité enfantile qui n'a rien à voir. Et le consentement, donc le titre du bouquin sera intéressant à lire puisque elle dit bien qu'elle était sous emprise à l'époque. Elle avait 14 ans, elle était sous emprise et séduite par cet homme de 50 ans. Et les psys qui travaillent sur les traumatismes sexuels disent bien qu'il y a deux types de traumatismes. Le traumatisme brutal et ce que le deuxième type, qu'ils appellent je crois le grooming, qui est une emprise progressive avec une séduction de l'adulte sur l'enfant ou le mineur, et qui est d'autant plus difficile à mettre en évidence pour le mineur, qu'il y a une séduction, voire une érotisation volontaire du corps du mineur, qui peut conduire même a du plaisir pour le mineur et qui est extrêmement délicat à déconstruire psychiquement avec ses conséquences majeures sur la santé qu'on connaît bien maintenant.
Est-ce que la libération sexuelle des années 70 a-t-elle été finalement bénéfique aux femmes ?
Alors, les féministes disent que la libération sexuelle n'était qu'une libération pour les hommes. Je pense qu'il faut qui rendait le corps des femmes plus disponible aux hommes. Je crois qu'il faut revoir les choses, que c'est vraiment quand même une révolution anthropologique. C'est parce que nous avons acquis la possibilité de pouvoir faire l'amour sans être soumise à la grossesse et que la parole peut se libérer à l'heure actuelle. Toujours, bien sûr, il faut faire attention à ce que ça ne soit pas instrumentalisé dans un rapport de domination homme-femme. Mais clairement, les femmes occidentales ont amorcé un tournant qui, pour moi, quoi qu'il en soit, des retours à minima en arrière, ne pourra jamais se faire complètement. Un acquis est fondamental sur la liberté d'expression et la liberté tout court des femmes.
Périne Millet, est-ce que ce phénomène médiatique actuel concernant les violences faites aux femmes et aux enfants ne serait-ce qu'une mode et qui soit ensuite comme un exutoire de la société oubliée ? Est-ce qu'il y a un combat aussi pour continuer cette communication ?
Je pense qu'on peut le craindre. Hein. On peut craindre toujours qu'on remette un gros mouchoir sur ce qui nous dérange tous. Hein, puisque moi, quand j'ai voulu monter ce diplôme il y a 4 ans, certes, je repérais sur les corps des patientes les antécédents de violence et je posais des questions, mais je n'y connaissais pas grand-chose. Il est à craindre qu'effectivement, face à la difficulté émotionnelle que représente le fait d'aller regarder ce qui s'est joué pour chacun d'entre nous, en tant qu'enfant ou en tant que femme ou homme, en matière de violence simplement entre guillemets psychologique, les femmes par exemple victimes de violences conjugales disent bien que ce ne sont pas les coups qui sont les plus difficiles, mais les mots. Il est à craindre que on ait tendance à remettre un gros mouchoir pour se protéger. Il reste donc, en tout cas pour le maillon manquant, la volonté de perdurer dans cette formation, puisque si les soignants sont formés, les choses sont mises à jour et surtout permettent aux patients et aux patientes victimes de recouvrer assez facilement et beaucoup plus facilement la santé globale.
Un maillon manquant sème en quelque sorte quelques graines à venir germer.
C'est vraiment le sentiment que nous avons eu quand on a fait passer l'examen de la première promotion. C'est que c'était une graine qui avait été semée aux 4 coins de la France avec une véritable compréhension intime de la complexité de ce qui se joue dans les difficultés qui peuvent se jouer aussi dans ce que nous, on appelle en gynécologie obstétrique, les troubles de l'attachement entre le bébé et la maman, puisqu'on sait que les mamans qui ont vécu des violences, quel que soit le type de violence, sont beaucoup plus à risque d'avoir ce qu'on appelle des troubles de l'attachement, des difficultés d'attachement avec leur bébé. Et on sait aussi que ces troubles de l'attachement sont pourvoyeurs et plus à risque de rendre les bébés futurs adultes soit victimes, soit auteurs ou autrices de violences, puisqu'il n'y a pas que les hommes qui sont auteurs de violences. Le sujet des femmes autrices de violences est beaucoup plus tabou, mais clairement, le fait d'avoir vécu des violences pendant l'enfance ou des troubles de l'attachement est à sur risque de devenir auteur et ou victime. Il semble donc que de prévenir pendant la grossesse, en prenant en charge correctement les patientes et les couples autour des violences éventuellement subies, leur permet de tisser un lien de confiance avec les professionnels de la périnatalité. Et donc, on prévient les troubles de l'attachement. Et c'est une vraie note d'espoir qui avait déjà été mise en évidence dans les années, début des années 2000 par le professeur Roger Henrion, à qui le ministère de la Santé avait commandé une enquête sur la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales pendant la grossesse. Et M. Henrion, gynécologue obstétricien, avait déjà mis en évidence que le fait de pouvoir prendre en charge ces violences pendant la grossesse était une opportunité particulièrement riche et pourvoyeuse de prévention, puisque les femmes sont obligées d'avoir au moins 6 visites pendant la grossesse, et donc un lien de confiance peut se tisser à plusieurs autour des patientes et du couple, et toujours donc prévenir non seulement les complications de la grossesse qui peuvent rajouter un stress et un trauma avec des accouchements traumatiques, mais prévenir les troubles de l'attachement, eux-mêmes pourvoyeurs de ce risque d'être victime ou auteur à l'âge adulte. C'est donc vraiment en périnatalité, et c'est le cœur de mon métier, que de prendre en charge correctement les patientes autour de la grossesse et les couples autour de la grossesse pour casser le transgénérationnel.
Eh bien, Perrine Millet, je vous remercie de nous avoir donné un peu de votre temps donc, pour cette émission sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Et il y a aussi peut-être pour des personnes qui auraient besoin d'aide, des sites sur Internet.
Alors, le site à privilégier, c'est le site du gouvernement, de l'ami prof, stop-violence-femmes.gouv.fr, à savoir que ce site, on peut se connecter et il n'y aura pas de trace sur l'ordinateur d'avoir été connecté sur ce site. Le téléphone, c'est le 3919, bien sûr. Sur ce site, il y a des informations pour les victimes ou pour les professionnels de santé. Et sur les professionnels de santé, il y a beaucoup de vidéos qui sont avec des livrets d'accompagnement des vidéos qui sont extrêmement bien faits pour donner des outils aux soignants.
Perrine Millet, bonne soirée.
Merci beaucoup à vous. Au revoir. Sirkat, sirtivät, vain pallahuta sirkat, sirtivät, vain pallahuta sirkat, sirtivät, vain pallahuta sirkat, sirtivät, vain pallahuta sirkat, sirtivät. Vain pallo huutaa 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 sirkat. Sirtivät, 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 vain pallo huutaa sirkat. Sirtivät.
szirkát, szirtévet, fájból vahúta szirkát, szirtévet, fájból vahúta szirkát, szirtévet, fájból vahúta szirkát, szirtévet, fájból vahúta szirkát, szirtévet.
Toimiks nyt ja nyt toimii.